dance. Yeah. We all in the club like.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir, bienvenue sur Radio Canu en direct pour la 232e émission de La Causerie. Et oui, ce soir, nous sommes le 17 décembre 2017, il va bientôt neiger. Restez chez vous sous vos couettes et écoutez-nous. Autour de la table, nous avons Jonathan.
Bonsoir.
Jean-Yves.
Bonsoir.
À la technique, c'est Clara.
Bonsoir.
Et c'est Fab qui a fait l'ouverture.
C'est ça. D'ailleurs, toi derrière le micro, si tu veux... Non, derrière le micro, derrière le transistor.
Pour faire.
Bien sûr, en 1953.
Tu parles d'un temps que les moins de
20 ans.
Si toi aussi,
au moins.
Si toi aussi tu veux nous écrire, tu peux le faire à.
Tu peux le faire à La Causerie Canu, tout attaché, en minuscule, tout ça. C'est lacausericanu@gmail.com.
Et des fois, quand ça marche, parce qu'en ce moment, on a plein de pépins. Tu peux aller voir les blogs de Radio Canu à blogs.radiocanu.org/lacauserie et tu trouveras toutes les émissions. Promis, ça va revenir.
Non mais enfin, on l'espère en tout cas.
C'est des petits soucis informatiques. Voilà, et sinon...
Au pire, il faut nous écouter en direct.
C'est mieux.
Ouais, parce que je ne sais même pas si le streaming fonctionne.
Si.
Si,
il a l'air à peu près de marcher.
Bon, bah c'est déjà ça. On n'a pas les blogs, mais au moins, hein, tant que les gens peuvent écouter une radio, c'est déjà l'essentiel.
Exactement. Eh bien, commençons ce soir. Ah oui, on a un espace aussi sur un réseau social qui s'appelle F avec Hook à la fin. Et voilà. Et Jean-Yves, tu voulais nous parler ce soir, alors pas du tout du sujet que j'ai noté, mais en fait de comment, comment le capitalisme s'insinue partout.
C'est ça. Oui. Alors oui, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces nouvelles applications qui permettraient de lutter contre le gaspillage. Alors j'hésite évidemment longuement à vous donner ces quelques sites. Et puis je me suis dit, non, je vais pas vous les donner. De toute façon, si vous tapez lutte contre le gaspillage, vous tomberez très vite sur 2-3 applications qui sont en plein buzz, comme on dit en ce moment. Donc je vais pas les nommer, hein, parce que bon, on va pas faire de la pub non plus à tout le monde, on en fait déjà au réseau social. Alors, pour rappel, donc ce gaspillage alimentaire, hein, c'est qu'on jette déjà 1,3 milliard de tonnes de bouffe par an à l'échelle planétaire, soit environ un tiers de la production mondiale de la nourriture destinée aux humains. À l'échelle hexagonale, on jette en France 10 millions de tonnes de bouffe par an.
Pour traduire ça en chiffres évidents, ça veut dire qu'on peut réduire de quoi nourrir 13 milliards d'êtres humains sur Terre alors que nous ne sommes que 7.
Voilà. 13 milliards ?
Ouais, c'est ça. C'est les chiffres de la FAO.
D'accord.
Donc voilà, c'est énorme. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui crèvent de faim, mais parce qu'en fait, on leur amène pas la bouffe, tout simplement.
Ah bah oui, oui, oui. Alors, quel est le principe de ces applications ? C'est pas très très compliqué. C'est des magasins, souvent des saladeries, des sandwicheries et même des hôtels aussi, j'ai appris, qui renseignent donc via ces applications les invendus qu'ils ont ou qu'ils auront, qu'ils projettent d'avoir en fin de journée, et ils les vendent moins cher, les clients que nous sommes toutes et tous censés être, je vous souhaite que non, en se géolocalisant, peuvent savoir, via donc ces applications, les entreprises, les restos, etc., qui autour d'eux pratiquent ces ventes d'invendus.
Ça veut dire que ça passe par les smartphones?
Oui, ça passe par les smartphones.
Ah bah oui.
Si t'as pas ton smartphone, si à 7 ans t'as pas ton smartphone, t'as raté ta vie, je veux dire.
Ah oui, évidemment.
Alors, à première vue, évidemment, on peut se dire super, on lutte contre le gaspillage, on évite de jeter. Alors ouais, évidemment, de la bouffe vendue ou achetée, en tout cas à prix cassé, qui termine dans un estomac, c'est toujours mieux que dans une poubelle.
Moi, je me rappelle quand on allait chercher les invendus chez Monoprix à 22h le soir, juste après la fermeture, et qu'on se faisait chasser par les flics parce que c'était interdit, parce que soi-disant c'était impropre à la consommation, et qu'en fait c'était juste parce qu'ils ne pouvaient pas faire de fric dessus, donc si eux ne l'ont pas, personne ne l'aura. C'est marrant, là, d'un coup, c'est moins impropre à la consommation. Quand ça peut se payer, c'est consommable, quoi.
C'est exactement ça, t'as tout bien compris. Et donc, ça serait effectivement mieux que ça termine dans les estomacs que à la poubelle, c'est certain. Faudrait être absolument abruti pour penser le contraire et le dire. Et pourtant, encore une fois, pour moi, c'est comme si on prenait toujours et encore les choses à l'envers. Et que là aussi on parle d'un business qui ne dit pas son nom, parce que je me le suis noté plus tard, mais justement je voulais continuer par vous citer des propos de la créatrice de l'application. Vous avez remarqué, hein, créatrice, pas du tout patronne. Bah non, attends, mode 2.0, c'est vachement plus cool, hein. Vraiment, c'est comme les livreurs, tout ça, c'est vachement plus cool. C'est toujours de l'exploitation, mais on change.
Mais en cool.
Ouais, c'est ça, avec le sourire. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, la créatrice de l'application? Elle dit, l'idée, c'est qu'en réduisant le gaspillage alimentaire, on crée de la valeur économique. Donc, finalement, tout le monde est gagnant. Le commerçant qui va récupérer de l'argent au lieu de jeter ses produits, l'utilisateur qui va payer un tout petit prix, et de permettre au petit volume d'invendus d'être quand même récupéré. Moi, ce que je me disais, ce que je me suis noté, parce qu'on fait pas ça, je fais pas ça de tête, hein, c'est que déjà, je pense que ce genre de business, ces nouveaux business qui pourtant sont pas vraiment nouveaux, hein, ça doit absolument, je pense, on doit absolument s'interroger dessus, comme on a pu le faire pour les livreurs, pour l'exploitation de l'auto-entrepreneuriat, etc. Alors, parce que déjà, ces entreprises, elles disent évidemment, hein, qu'elles n'empiètent pas sur la récupération effectuée par les associations type Resto du Cœur, Banque Alimentaire et autres secours populaires. On est évidemment, selon moi, en droit quand même de s'interroger sur ce propos. Parce que pour l'heure, évidemment, hein, vu que ces applications, ces entreprises, rappelons-le, entreprises, pas applications, débutent, elles n'ont pas encore tous les liens, elles n'ont pas encore les capacités de mettre peut-être en contact les grandes surfaces, les acheteurs à prix réduit. Et pour le moment, la majorité des entreprises revendant leurs invendus sont des petites entreprises. Vraiment, de ce que j'ai vu, ça m'a pas l'air d'être des hypermarchés, quoi.
Ça viendra après.
Et ben voilà, c'était ça ma question. C'est qu'est-ce qu'il en sera dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, en fait?
Moi, ça me rappelle Uber. Uber, au départ, il disait, mais moi, j'empiète pas sur le métier des taxis parce que je représente moins de 2% des courses effectuées dans les villes. Bon, aujourd'hui, j'ai vu à Paris, aujourd'hui, il y a une course sur deux qui appartient à Uber. Mmh. Donc, on voit bien que assez rapidement, ça se développe quand même. Donc là, c'est un peu pareil. Me dire que ça va pas avoir d'impact sur ceux qui font de la solidarité, j'y crois pas, quoi.
Justement, c'est ce que je me disais. Je me disais, les grandes surfaces, en fait, quand elles se diront qu'en fait elles peuvent vendre ce que avant elles donnaient aux associations et ainsi augmenter leurs bénéfices, je suis pas sûr que les grandes surfaces vont dire non plus pendant des siècles et des siècles. Amen. Alors,
t'es en forme, toi, ce soir.
Ouais. Autre réflexion que je me suis faite, hein, et que je me permets de partager avec vous et que j'ai pu constater aussi dans ma vie perso, enfin plutôt pro, souvent les invendus dans ces petits trucs, en fait, les articles récents sont redistribués entre les salariés et charge à elles et à eux, en fait, les salariés, hein, de les manger ou d'en redistribuer aux personnes qu'elles rencontreront sur leur chemin. Là encore une fois, hein, bah, pourquoi les entreprises favoriseraient-elles leurs salariés en leur permettant de se partager les invendus plutôt que de vendre les invendus ?
Surtout qu'il y a un certain cynisme parce que c'est des boîtes qui payent très mal. Pas l'oublier, les salariés des boîtes qui font des sandwichs ou ça, ils sont plutôt mal payés. Et donc, du coup, c'est eux qui seraient peut-être amenés à utiliser l'application derrière pour acheter des invendus pas
chers. Ils vont pouvoir
cher.
Acheter leur bouffe invendue de leur propre patron.
Non, mais c'est cynique quand on y réfléchit.
Alors, moi, ce que je me disais, c'est effectivement plutôt que de lutter contre le gaspillage, ces applications, enfin plutôt ces entreprises 2.0, hein, ça reste de l'entreprise, entreprise, ne permettent-elles pas plutôt au capitalisme, comme tu le disais au début de mon sujet, bah de s'immiscer dans tous les endroits où il était encore un petit peu absent. D'une certaine manière, on est dans une société capitaliste, je sais bien que le capitalisme, hein, il est quand même assez propagé. Bah, et que ça permette à la pieuvre capitaliste d'étendre encore un peu plus ses tentacules, de faire du bénéfice là où avant il n'y en avait pas. Pardon.
Non, mais j'ai juste un truc, ça ressemble à de l'huile sur une carapace d'insectes. C'est-à-dire, ça se met dans tous les petits interstices, dans tous les petits machins. Le moindre merdier est bon à prendre, quoi. Enfin.
C'est ça. Et là, j'ai l'impression que vraiment, ces nouvelles entreprises 2.0, justement, elles aident à ça, en fait.
Bah, elles vont là où il y a des secteurs qui n'étaient pas encore pris.
C'est ça.
C'est tout ça, le truc.
C'est exactement ça. Et je me suis dit, bah voilà, je suis allé voir sur un des sites de ces applications, de ces entreprises-là, bah, les propos suivants, là, que je vais vous lire, ici, du dossier de presse d'une de ces entreprises axées sur ce business, nous donne, selon moi, une petite idée quand même de l'objectif premier. Alors, je cite, hein, une commerçante à Paris. C'est génial comme concept, simple d'utilisation et avantageux pour tout le monde. On ne jette plus et on rencontre des gens sensibles et intéressés, tout en optimisant notre chiffre d'affaires. Un autre commerçant à Paris. Nous avons beaucoup de nouveaux clients qui découvrent le magasin grâce à l'application. Optimisation du chiffre d'affaires, nouveaux clients qui découvrent et qui donc reviendront.
C'est un truc de fidélisation.
On est un peu loin, non, quand même, de la lutte contre le gaspillage. Enfin bon, moi, c'est.
Bon, là, on est dans le commerce. Hein.
Ah oui, c'est ça.
Le commerce
en fait.
Pur, en plus.
C'est ça, on est juste dans le commerce. Et ben après, ben moi, les quelques réflexions que j'ai, c'est effectivement, c'est pour lutter efficacement contre les invendus. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'interroger, en fait, sur la production?
Bah oui.
Et ça concerne pas que la bouffe, hein, parce qu'on a pu voir dernièrement des chiffres d'une grosse enseigne de fringues, etc., qui jette des milliers de tonnes de fringues.
Qui les brûle.
Oui, qui les brûle.
C'est pire encore que de les jeter. Quoi.
Bah la bouffe, t'en fais pas plus. Hein.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme pour la bouffe. Tu dis ces fringues, ils pourraient les donner.
Ah, mais oui, oui.
Là, ils décident de les cramer volontairement, bah, quoi, oui. Pour pas baisser le prix et que les actionnaires s'en mettent plein les poches. Quoi.
Puis cramer le polyester, c'est pas hyper polluant.
C'est ça, en plus.
Mais non. Et donc, la production ne devrait-elle pas plutôt dépendre des besoins des personnes ? La production ne devrait-elle pas plutôt se faire en fonction, justement, des besoins ? Mais on sait bien qu'une société capitaliste dépend de la création des besoins. Hein ? Parce qu'il faut pousser. Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'autant les entreprises dépensent autant de milliards dans la publicité ? C'est bien pour créer des besoins, créer de l'envie et pour pouvoir vendre et faire tourner cette machine capitaliste. Alors bon, je sais bien, hein, même si je sais bien que changer radicalement la société est bien plus complexe que de développer une application, reste que je pense qu'on devrait, qu'on doit voir en fait ces évolutions et ces modifications du capitalisme. Parce qu'en fait, on ne sort pas d'une société capitaliste avec ces applications-là. Enfin, on étend juste, moi je pense, le pouvoir du capitalisme et de la prise de la société en fait. Donc voilà, donc pour moi, c'est cogitons sur toutes ces applications, sur tous ces trucs qui disent faire de l'écologie là où en fait ils ne font que du capitalisme en fait.
Je suis d'accord avec toi, c'est pas quand on met capitalisme gentil qui devient gentil. Sinon, il y a un truc que je voulais rappeler. Aujourd'hui, les associations type Secours Populaire, Resto du Cœur ou tous ceux qui font de l'entraide en fait envers les plus démunis, comme on dit, envers les pauvres pour parler clairement, en fait, ils ont plus ou besoin de camions frigorifiques. C'est ça leur vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les normes leur imposent de transporter tout en camion frigorifique d'un point A à un point B. Et donc, en fait, ils peuvent pas aller faire de la récup comme ça, parce qu'ils ont pas les moyens. Donc, si vous voulez vraiment qu'on arrête de gaspiller et qu'on fasse utile, eh ben, aidez ces associations à se payer des camions frigorifiques. Vous allez voir que d'un seul coup, il y aura moins de gaspillage. Ça ira dans des, auprès de gens qui en ont vraiment besoin. Mais je suis pas sûr que les entreprises, là, elles aient vraiment envie qu'on fasse ça.
Ah ouais, je ne pense vraiment pas. Je sais pas si vous voulez.
Ouais, moi, je voulais juste ajouter que, à un moment donné, c'est un putain d'argument commercial de dire allez-y, achetez, ça fera du bien à tout le monde. Vous allez kiffer, allez être une bonne personne parce que vous avez acheté. Achetez encore et achetez encore. Parce que comme ça, vous serez quelqu'un de bien. Vous aurez lutté contre le gaspillage.
Ah ouais. Et encore, si tu te promènes sur le site internet, déjà, on te tutoie. Parce que tu vois, on est.
C'est
l'esprit 2.0, quoi. On a complètement cassé toutes les frontières.
C'est over fun.
Ouais, c'est over fun. Enfin, c'est vraiment. Je pense que c'est une vraie logique en ce moment qui se développe. C'est ce genre de capitalisme qui serait complètement changé. La société, elle serait complètement changée, alors qu'en fait, non. Et encore une fois, je pense que le capitalisme, justement, s'étend de plus en plus. Et je ferai une toute petite parenthèse. Je crois que je vous en avais parlé déjà, c'est les sites qui aujourd'hui monnayent la solidarité. C'est-à-dire, si vous avez un meuble à monter, parce que vous savez pas trop les monter, avant vous demandiez à des amis. Et ben non, maintenant il y a des sites internet qui vous disent, tiens, il y a des gens, ils doivent faire monter leur meuble, si toi tu veux y aller pour te faire exploiter le moins cher possible, ben bien évidemment c'est de la solidarité payante. La solidarité payante... C'est bizarre.
Mais
ça, ça a commencé en fait avec les sels. Ça, c'était les trucs où on échangeait un service contre un autre. Et moi, j'avais eu un grand débat avec quelqu'un en lui disant, mais en fait, ça revient à monnayer, quoi. Ah non, parce que là, les fondantes, la monnaie, blablabla. Sauf qu'en fait, au final, le capitalisme ayant horreur du vide, comme la nature, et bah, du coup, tiens, si ça marche avec une monnaie virtuelle, on va le faire avec une vraie monnaie. Et puis, bizarrement, ça a écrasé tout le système des sels. Mais c'était évident, en fait. Enfin, voilà.
Bah, voilà. Donc, si vous pouvez vous aussi cogiter sur toutes ces belles applications, et eh ben ce serait vachement bien. Je voulais vite fait aussi parler rapidement d'un deuxième petit sujet, c'est juste parce que je vous avais parlé dans la causerie du 16 juillet 2017, c'était la 212e, d'Evelyne Hernandez en fait, qui a été condamnée en juillet 2017 au Salvador, je précise, à 30 ans de prison pour homicide aggravé après un accouchement prématuré d'un bébé mort-né en avril 2016. Ça, je vous en avais parlé. Et eh ben cette fois-ci, je vous parlerai rapidement de Teodora del Carmen Vázquez, qui, le 14 juillet 2007, enceinte de près de 9 mois, quand elle avait appelé les urgences, depuis les toilettes du collège de San Salvador où elle était employée. N'obtenant pas de réponse des urgences, elle avait été victime d'une grave hémorragie et elle avait perdu connaissance et son bébé était mort-né. En découvrant le cadavre et cette personne, et donc Teodora del Vázquez qui était inconsciente, et ben un employé du collège avait prévenu la police et la jeune femme, encore inconsciente, elle avait été bien sûr arrêtée. C'est formidable. Hein. Et en 2008, donc, il y a eu un procès. Forcément. Hein. Et à l'issue du procès, que ses avocats actuels ont qualifié d'incohérent et entaché d'irrégularité, Théodora avait été reconnue, elle aussi, coupable d'homicide aggravé et elle a été condamnée à 30 ans de prison. En janvier 2015, la Cour suprême a rejeté sa demande de grâce. Et donc, mercredi 13 décembre 2017, elle avait fait appel de son procès. Eh bien, le procureur l'a accusée d'avoir caché sa grossesse et de ne pas avoir voulu de bébé et a confirmé sa peine donc de 30 ans de tôle. Donc, ça fait 10 ans qu'elle a passé en tôle, donc il lui en reste 20. Voilà, je voulais pas en faire 15 tonnes, mais c'était juste, on n'oublie pas que ça soit Teodora del Carmen Vázquez ou toutes les autres, toutes les femmes qui sont enfermées, tuées, battues par le patriarcat, que ça se passe au Salvador, en Irlande ou bien partout ailleurs. Et tout le temps, donc voilà, faut juste pas qu'on ferme les yeux et encore moins nos gueules. Parler un petit peu de ces situations-là leur donne un petit peu d'existence. Voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Je sais pas si vous aviez. On passe à la musique ? Allons-y.
Je suis une fanfreluche. un petit chien en peluche. Je suis une fleur en pot, je suis un bibelot. Je suis un bilboquet, rien qu'un petit joueur. Je suis la femme. Je ne pense pas avec ma tête qui sert à la décoration. Je n'ai pas d'âme, je suis comme une bête. D'abord j'ai les cheveux trop longs, mes ongles c'est pas pour griffer, c'est pour y mettre du vernis. L'oreille c'est pas pour écouter, pour les connaisseurs c'est un fruit. Je suis une confiture, je suis une pâture, je suis un liseron, je suis un édredon, je suis une poupée et je suis un gibier, je suis la femme. Si j'ai un nez, si j'ai deux pieds, comme si j'étais un être humain, c'est pour ne pas les orienter. Si j'ai deux yeux, si j'ai deux mains, c'est seulement pour faire illusion que l'homme soit pas dépaysé. C'est une bonne imitation, on pourrait presque s'y tromper. Je suis un accoudoir, je suis un reposoir, un monstre familier, une puce dressée. Poète, prends ta lyre, tu pourrais presque dire qu'il ne me manque que la parole.
Et vous êtes de retour dans la causerie, comme tous les dimanches de 22h à 23h sur Radio Canu. Et on vient de s'écouter Brigitte Fontaine avec le titre « Côtelette, je suis la femme ». Et c'est un album de 66. Voilà, voilà.
Et c'est une immense artiste.
Vraiment. Bien évidemment. Eh bien, la suite, c'est Jonathan qui va nous parler. Tu veux nous fidéliser, tiens.
Oui.
Pour une causerie achetée, une causerie offerte.
Ouais, mais ça avait commencé un petit peu dramatique, mais ce soir, c'est presque confession intime. À la causerie. Oui, parce qu'il m'arrive des trucs dans la vie. Alors, pour les auditeurs les plus fidèles, justement, vous savez que voilà ce que je pense de la consommation outrance. C'est pas tellement mon truc à la base. Mais bon, je me suis dévoyée. Voilà, j'ai complètement craqué. Il m'est arrivé un truc de ouf. Je suis rentrée dans un magasin de prêt-à-porter de qualité moyenne avec un budget plutôt large, à mon sens, de 50 euros pour deux pantalons. Et je me suis fait aspirer par le magasin, en fait. Il s'est passé un truc, je suis sortie de là. J'avais plus que deux pantalons, déjà. Donc ça faisait lourd à porter. Et puis j'ai dépensé beaucoup plus que 50 euros. Et j'ai eu l'impression d'en avoir gagné 15. Donc forcément je redescends un petit peu et puis je me dis comment ça a pu avoir lieu, enfin j'ai pas pris de drogue. Je comprends pas. Alors non, si ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu profiter d'une offre pour m'offrir évidemment ce que je ne juge pas nécessaire en temps normal. Et donc cette notion de nécessité est importante pour la suite de ma chronique. Et puis surtout j'ai répondu à un mécanisme pervers de manipulation qui pousse le consommateur tout aussi conscient qu'il est à perdre sa vigilance, parce qu'à un moment donné on va te dire tel besoin, en réalité tu l'avais pas mais tu l'as quand même, parce que regarde bien. Alors, dans un magasin de fringues, comment ça marche? Eh bien, c'est simple. T'achètes un pantalon, tu vas te dire, tiens, les chaussures, elles sont à moins de 30%. En plus, elles vont bien avec. Puis, Christina Cordula, elle a dit que, tu vois, il fallait quand même marier la chaussure avec le legging. Mais si le legging, c'est total faux pas. Enfin, bref. Donc déjà, oui, ça agit énormément avec les tendances, avec la publicité, avec ce qu'on nous renvoie aussi socialement les uns vis-à-vis des autres. Pardon, faut que j'arrête de tourner la tête quand je parle.
Et donc, du coup, aussi les émissions de télé.
Est-ce que les émissions de télé nous renvoient? Mais les émissions de radio aussi, de radio, télé, les émissions... Enfin, en général, les médias. Et donc... Partons du principe que, de toute manière, le but de toute entreprise dite à but lucratif, de toute entreprise...
C'est la soirée du entreprise.
Voilà. Enterprise, comme on dit, en anglais.
Oui, ça viendra après, ça.
Voilà, c'est pour après. Il y a... Donc le principe, c'est d'augmenter les profits. Et pour ça, une des techniques commerciales utilisées, c'est la fidélisation. Alors tout à l'heure, Jean-Yves nous parlait du capitalisme qui s'insinue partout, qui utilise des techniques qui reposent sur nos sentiments de, enfin, comme le fait d'aider autrui. Là, ça va également se reposer sur des instincts. Donc quelque part, l'instinct de collectionner, d'être en partenariat exclusif, ce genre de choses. Mais bon. J'y viens un petit peu plus précisément ensuite. Donc le principe, c'est de fidéliser les clients, c'est-à-dire de les rendre réguliers et donc d'augmenter les bénéfices et de rendre l'entreprise pérenne. Parce que qui dit client régulier dit une entreprise qui va tenir longtemps. Donc ça, c'est hein, ce qu'on apprend dans les petites écoles de commerce à la base. C'est tu veux que ça dure, eh ben trouve-toi une clientèle. Donc pour créer cette clientèle, parce qu'on la crée, il faut lui donner envie d'acheter. Et pour lui donner envie d'acheter, il faut l'attirer. Donc ce vocabulaire, quelque part, je me dis, il doit avoir un impact sémantique. Enfin, quand on parle de fidélité, de client régulier, tu vois, d'attirer le client, de principe d'exclusivité, un seul partenaire de transaction. Enfin, pour moi, ça ressemble presque à un mariage, quoi, tu vois. Enfin,
on est sur
le contractuel, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est le contractuel et sur le désir, quoi, en fait. C'est
complètement. Ouais. Donc, du coup, bon, bah, une fois que tu t'es marié avec ton magasin... C'est un petit peu comme si tu étais fidèle à un groupe ou que tu faisais partie d'une communauté de consommateurs.
Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à aller ailleurs que dans les magasins où ils ont la carte parce qu'ils ont l'impression de les tromper quelque part.
Exactement.
Mais c'est vrai, j'avais vu un reportage là-dessus, ça m'avait scié, quoi.
Mais j'allais y venir parce que c'est ça aussi le principe. Alors déjà, il ne faut pas s'amuser à lire toutes les clauses d'une carte de fidélité parce que sinon on ne s'en sort plus. Voilà. Mais c'est aussi ça, c'est le fait de dire eh bien, quelque part, nous, on vous apporte tel service, vous êtes reconnaissant de ce service, enfin, quelque part, votre relation et la nôtre est privilégiée. Et dans une société où, quelque part, on isole de plus en plus l'individu, hein, on l'empêche de créer du lien, parce que, ben voilà, on compense par la consommation, en lui créant une communauté de consommateurs. Alors, cette communauté de consommateurs, pardon, elle est assez présente sur Internet, un petit peu moins peut-être dans les magasins physiques, mais elle est présente quand même quand on voit les consommateurs bio qui vont, pour ne pas les citer, l'eau vive ou ceux qui préfèrent la vie claire. Enfin, ça va partout.
Mais c'est, en fait, je trouve que ça rappelle vachement l'adolescence. Tu sais, où il y a cet effet de tribu. Il faut que tu appartiennes à un groupe, en fait, et que finalement, ça se perpétue après sur d'autres formes, mais finalement pas si lointaines que ça, en fait.
Mais on joue tout à fait sur l'identité des individus. En fait, on joue sur leur instinct et sur ce en quoi ils se reconnaissent. Donc, à partir de là, oui, on est sur des choses qui, en effet, se développent à l'adolescence, qui le besoin de reconnaissance, le besoin d'appartenir à quelqu'un, à un groupe et à quelqu'un. Donc, voilà. C'est très très lourd de sens, finalement, dans les termes qui sont utilisés déjà. Alors, comment faire pour s'assurer que le client adhère? Parce que c'est quand même, enfin, toi, utilisateur conscient qui m'écoute à l'autre bout du transistor, et moi, utilisatrice consciente, la plupart du temps, je me dis, mais comment ça s'est passé?
Parce qu'on se fait tout savoir un jour.
Eh bien voilà, c'est ça. Il y a une technique qui consiste à berner le client en faisant appel à son ego, donc à ses pulsions. Et souvent des pulsions qui sont compétitives, collectionneuses, comme je le disais tout à l'heure, ou encore avares. Bref, des choses qui le rendent humain. Et comment on fait pour que ça marche? Eh bien, on fait croire au consommateur qu'il a tout à gagner à conclure une transaction exclusive avec un magasin. Donc, par exemple, on lui offre un lot, des réductions, promotions, des cadeaux, des titres. Par exemple, sur Adopte un mec, si tu as plein de badges, eh ben, tu as un titre. Tu vois? C'est, non, mais oui, même le site de rencontre se monnaie sur certains sites de vente en ligne. Eh bien, oui, tu vas avoir des cadeaux. Pas de carte de fidélité, mais des cadeaux parce que tu auras des codes, parce que tu auras des, voilà. Quand tu vas, acheter ton kebab, parce que moi, j'aime bien ça, t'as souvent une petite carte avec 10 points. Et quand t'arrives au 11e point, le kebab est gratuit, quoi. T'as mis 80 balles pour avoir 8 balles de réduction. Maître du monde. Et voilà. Et donc, finalement, c'est toutes ces choses-là, quelque part, c'est offrir au croire au client qu'on lui fait un cadeau contre l'achat de certains produits ou l'échange de données personnelles. Parce que faut savoir aussi que tout ce qui est gratuit, c'est-à-dire qu'on achète vos données.
Bah, de toute façon, les données personnelles, c'est le pétrole du 21e siècle. C'est-à-dire, on spécule sur les données personnelles, on revend des blocs de données personnelles. Il y a même des cotations en bourse de sociétés qui ne font que ça. Donc, on voit bien que c'est devenu le pétrole d'aujourd'hui, quoi. Enfin...
Nous sommes la ressource, un peu comme dans Matrix.
Ouais.
Enfin, on s'éloigne. Donc, prenez la carte, elle est gratuite. Non, rien n'est gratuit dans ce monde capitaliste. Et ça, il va falloir le retenir une bonne fois pour toutes, surtout quand vous rentrez dans un magasin de prêt-à-porter avec l'intention d'acheter deux pantalons et que vous ressortez avec un putain de sac plein à ras-bord que vous n'arrivez pas à porter. Bref. Souvent, ces cartes de fidélité ont une date limite. Et c'est là où on arrive dans un mécanisme assez pervers. Tiens, vous avez droit à 10 euros de réduction la semaine prochaine. Après, c'est fini. Donc, tu reviens dans mon magasin la semaine prochaine, parce que sinon, après, c'est fini. Et donc, ça, c'est la deuxième chose qui fait qu'on va emmener, quelque part, le consommateur à s'inclure dans une boucle. Outre sa reconnaissance demande d'identité, il y a aussi le fait que pour qu'il puisse profiter de ces avantages, il y a des conditions particulières. Donc, comme je le disais, je vais manger 10 kebabs, dépenser 80 euros pour en avoir un gratuit à 8 euros. Ou alors, je vais aller dans un magasin de prêt-à-porter et m'acheter une merde à 10 balles parce que j'ai gagné 10 balles et que j'en ai pas besoin.
Oui, mais généralement, il faut que t'achètes quelque chose pour bénéficier du truc. Donc, c'est là que c'est pervers. C'est-à-dire que pour avoir 10 euros, il faut dépenser 10. Donc, en fait,
il faut en dépenser plus que ça parce qu'on va pas nous offrir 10 euros pour 10 euros achetés.
Oui, et puis tu trouver un objet à 10 balles.
C'est très compliqué, j'allais y venir. Hein. Si je retourne dans ce magasin, je vais forcément, finalement, soit acheter quelque chose de moins cher et perdre la totalité de mon avantage, soit acheter quelque chose de plus cher et faire gagner, finalement, à mon contractant, en face, la somme qu'il attend que je lui donne. Parce que c'est ça. Et en fait, il y a un truc aussi, c'est que, je vais aller acheter un truc à 10 balles, mais j'en ai pas besoin. Enfin, franchement, j'ai pas besoin de consommer ce truc-là. Je ne sais même pas ce que ça va être. Hein, avec mon coupon de réduction, je suis déjà en train de me faire de me presser. Alors non, je vous rassure, dans la réalité, je suis beaucoup plus détente. Mais dans l'idée, consommateur moyen, je me casse le cul à me dire quand est-ce que je vais trouver le temps dans ma semaine de travail d'aller dépenser ces putains de 10 balles. Donc il y a ça. Et il y a le fait que aussi, avec toutes ces cartes de réduction, de fidélisation, de smiles, de quêtes, quelque part, on rend important le fait d'acheter du surplus. On rend important, en fait, on fait croire qu'il y a une nécessité à ça. Mais c'est là où je me dis, mais là, on commence à être complètement dans le délire. Et alors, encore mieux, on transforme tout ça en quête, c'est-à-dire en forme de jeu. Et là, je pense que ça vaut un sujet directement dans la causerie, mais la question de l'esprit de compétition dans le capitalisme et la gamification, finalement, de toute la société de consommation, c'est-à-dire le fait de mettre constamment au défi le consommateur de consommer toujours plus. Parce que c'est ça la gamification de la société. Donc c'est une mutation logique d'une technique commerciale qui est répandue, connue, exploitée, surexploitée et retournée. Et ben voilà, on commence déjà à être un petit peu perdu là. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, en tant que consommateur, aussi conscient que l'on soit, on va forcément toujours avoir un moment où on va relâcher la vigilance parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ça s'insinue partout. On ne peut plus aujourd'hui, j'ai l'impression, être libre vraiment de faire un choix d'achat en fonction de ses besoins, de ses nécessités et de ses moyens.
Bah, en fait, c'est lié à quelque chose que, à côté de quoi, je pense, les mouvements progressistes sont passés à la fin du 20e et début du 21e siècle. C'est qu'en fait, le capitalisme, en très longtemps, il a marché sur l'exploitation des ressources, c'est-à-dire c'était la période coloniale, où on allait chercher des ressources, on a pompé toutes les ressources maximum, on a lancé l'ère industrielle et l'exploitation de l'homme, hein, évidemment, enfin des humains, plutôt. Et derrière, en fait, il y a eu la guerre. Ça a été un énorme moteur pour le capitalisme. Et puis le capitalisme s'est rendu compte que la guerre, c'était très destructeur. Mais bon, ça rapportait pas autant que ce qu'on pensait. Donc en fait, la nouvelle phase du capital, et c'est ce qu'on a un peu oublié, c'est que c'est la consommation. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, là, tout est fait pour et par la consommation. Et en fait, y a plein de gens qui passent encore à côté de ça et qui ont des fois des grilles de lecture issues du 19e, où l'exploitation de l'homme par l'homme, l'exploitation des ressources. Mais en fait, il n'y a pas que ça. En fait, aujourd'hui, le capitalisme, il va beaucoup plus loin. Il est dans la vie de tous les jours, il est dans nos actes d'achat, et même dans nos actes inconscients. Et c'est là que c'est grave, en fait.
Puis, il faut voir le terme exploitation tel qu'il est, c'est-à-dire global.
Oui, tout à fait.
Il ne faut pas s'arrêter.
En fait, tout est exploité aujourd'hui.
Tout est exploitable.
Voilà. Ouais,
mais je renvoie à ce fameux roman Contoyen de Philippe Deschemins.
Oui, tout à fait.
Qui est très, très parlant sur le sujet.
Ah, ok, je croyais que tu t'avais encore.
Non, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose.
Ben, ouais, je voulais justement rappeler. Alors, je pense qu'effectivement, une des bases du capitalisme, c'est la création de besoins. Parce que le capitalisme a besoin de consommation, il a besoin de ça.
Et d'autant plus aujourd'hui, en fait.
Mais oui.
Parce que c'est son moteur.
Oui, c'est ça. Et je voulais rappeler un petit truc. C'est la dernière fois, je ne sais plus, j'avais vu ça dans une émission. Un des moteurs pour arriver à cette consommation-là, c'est aussi la publicité. Et il y avait un gars qui donnait un exemple de grosse marque de chaussures de sport, je vais pas la citer
avec
ici,
une virgule.
Avec une virgule, par exemple. Les godasses qui coûtent, je crois, 120 balles, 70% de ce prix, c'est représentatif de la publicité.
Ouais, la pub et le placement de produits, ouais.
Donc, ça veut dire que déjà, tes godasses, de toute façon, au départ, elles valent rien parce qu'elles sont fabriquées dans des pays où on exploite les gens, où les gens ont très peu de droits de salariés, etc. Et en plus dessus, ils font une marge, mais qui n'est même plus une marge, là. Enfin, c'est juste gigantesque. Et en plus, on te la fait payer à toi. Et c'est quand même, c'est magnifique, quoi. C'est-à-dire qu'on est nos propres bourreaux, je pense, assez régulièrement. Mais qu'encore une fois, je crois que ça nous arrive effectivement à toutes et à tous. On a tous déjà craqué, etc. À moins d'être un puriste ou une puriste. Mais là, t'es plus très humain. Mais, et ce qui fait qu'effectivement, enfin, je pense qu'il faut, c'est une vigilance, effectivement, mais je crois.
C'est ça.
Constante, quoi, mais ce qui peut aussi être des fois très fatigant.
Mais c'est ça, c'est à un moment donné réussir à tout le temps avoir un regard critique sur tout ce qui nous est directement foutu dans la bouche comme un entonnoir.
Et le pire, c'est qu'on n'en sort pas par la marge, parce que je reprendrai les mots d'un ami qu'on a en commun avec Jean-Yves qui disait, en fait, même quand tu fais de la récup ou quand tu vas acheter dans les trucs de récup, en fait, tu sors pas du système. Parce que finalement, cette récup ou ces trucs où tu achètes, bah, ce n'est que les scories du fait qu'on est surconsommé avant. Et qu'au final, bah, t'es tout le temps en train d'alimenter, même quand tu fais ça. Et il nous disait en fait que bah, c'est rejoint ton sujet sur la récupération. C'est qu'en fait, au final, même là, on finit par faire de la thune. Et l'exemple typique, c'est le vintage. Mmh. Où on arrive à revendre des vieux trucs super chers.
Des poubelles.
Quoi. Et c'est, voilà, et c'est les placards de grand-mère et tout ça qu'on revend hyper cher aujourd'hui, parce que c'est top d'être habillé vintage. Mais pourquoi ça vaudrait 10 fois ou 30 fois la valeur que ça avait au départ? Voilà. Mais je trouve, on a un monde un peu fou, comme tu dis, de création de besoins, de création de mode et tout ça, quoi.
Ça y est, pour moi, on est perdu.
Ok, c'est dit. Alors passons à la musique.
Musique, s'il vous plaît.
the backseat of the taxi.
Eh bien, bon retour dans les causeries sur Radio Canu, le 102.2, la numéro 232 du 17-12-2017. Pardon, je suis désolée. Et donc, vous venez d'écouter Isaac Dillusion avec son titre Isabella, qui est un joli petit titre bien piqué. Et puis, ben, du coup, c'est Fab
ouais.
qui va nous parler. Qui va nous parler d'Enterprise.
Oui, tout à fait. Je rappelle qu'en américain, entreprise se dit compagnie. Et donc voilà, oui, je vais vous parler en fait de Star Trek. Alors, je vais vous parler des séries, et parce que pour moi, c'est des séries qui sont au-delà de la science-fiction. J'ai oublié le générique, je voulais l'amener pour le mettre, et j'ai oublié de le mettre. Mais comme vous écoutez les émissions Astro avec Georges, vous l'entendez régulièrement, enfin, vous les entendez. Donc voilà. Pourquoi je voulais vous parler donc de ces séries. Alors, je redis bien, je ne parle pas des nouveaux films qui ont eu là, les derniers avec de J.J. Abrams, et je ne parle pas non plus des séries animées, parce qu'il y a eu deux séries dessins animés Star Trek. Voilà. En fait, je voulais souligner pourquoi en fait ces séries sont toujours ont toujours des choses à nous apporter et qu'elles avaient à dire à chaque fois qu'elles sont nées sur l'ère du temps, parce qu'en fait elles sont toujours reliées en fait à ce qu'on vit réellement. Je le dis, ça n'enlève strictement rien au fait que ce soit des superbes séries d'anticipation technologique, parce que Star Trek, c'est ce qu'on appelle de la hard sci-fi, c'est-à-dire que ils essayent de se baser au maximum sur des trucs faisables. Voilà. Même si la distorsion, je suis pas encore sûr qu'on y arrive, mais disons qu'il y a quand même l'idée que si, on pourrait un jour y arriver. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc Star Trek, on va parler d'abord de la série d'origine qui s'appelle Star Trek. Alors je rappelle, Star Trek, c'est se voyager dans les étoiles. Hein, voilà. Donc c'est qu'elle est créée en 66 par Jane Roddenberry et bizarrement elle n'est pas publicitée du tout par le public, contrairement à ce qu'on croit. Elle a introduit pourtant des personnages qui sont devenus cultes, hein, notamment le capitaine Kirk et Spock. Voilà, tout le monde, même les gens qui ont jamais vu la série, voit à quoi ressemblent ces deux personnes. Ils sont interprétés par William Shatner et Leonard Nimoy. Mais alors qu'est-ce qui a pu déranger au point que la série n'a pas fonctionné? Parce que c'est ça, on peut s'interroger quand même. Bah, tout simplement les idées même qu'y met Roddenberry. Pacifiste, il va imposer que l'Enterprise, le vaisseau, donc ça veut dire entreprendre ou ça veut dire explorer, en fait, soit un vaisseau d'exploration, justement. Il mettra en place l'idée d'une fédération des planètes, qui deviendra plus tard la fédération intergalactique, où chaque espèce a son mot à dire et où la gestion est faite au consensus. Il imposera en plus que l'équipage soit constitué d'humains et d'extraterrestres. C'est-à-dire qu'en fait, pour une série, c'est assez novateur, c'est que d'un coup, les humains sont pas centraux, on est un au milieu de l'univers, et finalement, on est juste là parce qu'on est sur Terre, bien il y en a d'autres qui sont ailleurs, quoi. Donc voilà. Donc c'est assez novateur. Et en plus, il va imposer que les humains soient de toute nationalité. Et notamment, il va mettre un Russe, c'est Scotty, qui est interprété par James Doohan, en pleine guerre froide. Hein, je vous rappelle, en 66, on est en pleine guerre froide, on n'est pas loin des missiles de Cuba, tout ça. Il va dire non, il y a un gars, il s'appelle Scotty, il est russe, et en plus, il est vachement marrant. Pire, aux yeux des réactionnaires, il va imposer une femme noire, l'actrice Nichelle Nichols, qui interprète Uhura, et un japonais, George Takei, qui est dans le rôle de Sulu, comme proche du capitaine, et il va même leur donner des rôles centraux dans plusieurs épisodes. Alors ça a fait vraiment frissonner les États-Unis. Hein. Voilà. Donc c'est donc clairement contre l'idée de guerre froide et de guerre tout court que la série est montée. Elle va faire 3 saisons sans vraiment beaucoup de téléspectateurs, mais elle sera redécouverte après le premier film issu de cette série qui aura un succès surprise en 1979. Bah ouais, on est dans la pleine période Star Wars et il y a un film sur les étoiles qui sort et c'est Star Trek. Alors les gens ont dû se dire c'est la même chose, mais non. Mais voilà. Mais ça permet aux gens de redécouvrir la série. Quant au fait que les idées, quand on sait que les idées d'origine, dans la version originale du scénario, le capitaine Kirk était une femme. Qu'il y avait des amours multiples dans l'équipage et des sexualités très diverses, qu'il souhaitait en plus que les nationalistes américains soient parmi les ennemis de la Fédération, on voit bien que Roddenberry voulait aller très très loin dans son utopie, et surtout qu'il avait encore pas mal de choses à dire, mais que malheureusement, comme d'habitude, les studios ont limité certains aspects. Voilà. Alors, il a quand même obtenu, il y a plein de gens qui le disent, que Kirk soit effectivement un homme, mais alors quand on voit comment il est coiffé, comment il se comporte, eh ben, en fait, il a toujours eu ce qu'on appelle des codes crypto-gays, et c'est pas pour rien. Parce que sur les plateaux, il insistera beaucoup. Donc, va naître ensuite Star Trek, la nouvelle génération. Autre série qui est lancée en 1987, et cette série va durer 7 saisons. Donc on voit déjà qu'il y a une plus grande envie de suivre Star Trek. Elle va introduire de nouveaux héros, mais le plus intéressant dans cette série, c'est le sujet de fond. Parce que le sujet de fond de la nouvelle génération, c'est la technologie, justement. Et ne pourrions-nous pas voir la technologie nous bouffer? Voilà. Devenir tellement au cœur de nos vies qu'elle en deviendrait la vie elle-même. Nous sommes dans la période de l'émergence de l'informatique et bientôt d'Internet. Hein, c'est 1987, 1990, c'est les années où ça bouillonne pas mal. Et au travers des Borg, ces personnages que Roddenberry va créer, bah c'est là qu'il va mettre en question tout cela. Les Borg, ce sont des êtres cybernétiques, entièrement, donc des robots, hein, entièrement, qui, pour s'étendre, assimilent toutes les civilisations qu'ils croisent pour mieux les rendre synthétiques. Vous voyez, donc il y a une vraie vision du notion de « et si la technologie nous bouffait ?» La dualité d'ailleurs se trouve très bien exposée, la technologie au service des vivants ou les vivants au service de la technologie. Voilà. Et toute la série va poser cette question pendant 7 saisons et elle est passionnante pour cet aspect-là. La série en plus est encore plus pacifiste que la première, la diplomatie joue un rôle central dans le règlement des conflits. Et ça c'est Roddenberry qui va insister, il va dire là on arrête avec les phasers, les canons, les machins, hop, on fait de la diplomatie. Il y a des épisodes qui ne reposent que sur des discussions entre deux personnes pour arriver à éviter une guerre. Il fallait quand même oser le faire et ils sont passionnants parce que c'est super bien fait. Et elle met en place un monde où l'argent n'existe plus, où la misère et la famine ont été vaincues, et paradoxalement par l'invention du synthétiseur qui permet de rendre accessible la nourriture de façon illimitée. Tu avais une question, Jean-Yves, je le sens.
Non, c'est juste parce que tu as rajouté cet élément-là de fin.
Oui.
Parce qu'au début, il disait juste avec un synthétiseur.
Ouais.
Moi, je ne comprenais pas si c'était un clavier.
Voilà. Et en fait, c'est un objet qui arrive à synthétiser tout ce qu'on souhaite, et notamment de la nourriture. C'est la dernière série qui va être faite par Roddenberry, qui va mourir, lui, quelques temps après le début de la série. Donc, à la suite de Star Trek Next Generation, ou Nouvelle Génération, on va arriver Star Trek Deep Space Nine. Alors ça, c'est étonnant parce que c'est une série créée par Rick Berman et Michael Piller qui prennent la suite de Roddenberry. Alors attention, quand je dis ils prennent la suite, c'était vraiment eux qui écrivaient déjà avec lui. C'est-à-dire qu'il y a une vraie filiation entre eux. C'est pas juste on va faire un Star Trek sur un coin de table. Hein. Et elle part explorer quelque chose de plus profond. On est en 1993 quand la série est lancée. Les USA sont en proie à des tensions raciales énormes, des manifestations et des actes racistes très violents. La série, elle, bah bizarrement ou étonnamment, va aborder le vivre ensemble, entre humains mais aussi avec des extraterrestres, sur une station spatiale fixe, un point de ravitaillement de la Fédération au sein de l'univers. Durant cette saison, et en plus d'autres sujets, la plupart des épisodes vont tourner autour de la question du vivre ensemble, de la différence, de l'acceptation de l'autre, de ce qui n'est pas acceptable aussi, parce qu'il y a aussi des limites. Donc voilà, donc c'est, tout va tourner autour de ça. C'est ce qui rend d'ailleurs la série très intéressante. Comment défaire les tensions ? Comment comprendre l'autre, comment s'approcher de quelqu'un qui nous est très éloigné, comment se comprendre soi. Et en fait, c'est une série qui a eu du mal à trouver son public, et pourtant, elle est pour moi l'une des plus complexes et des plus intéressantes de l'univers Star Trek. Voilà. Derrière ça, en parallèle, il va se créer Star Trek Voyager. Vous voyez, à chaque fois, c'est une nouvelle série, hein, voilà, avec des nouveaux personnages, tout ça. Alors, c'est pour, jusqu'à maintenant, la série qui a le mieux marché. Elle a duré 7 saisons, et elle est lancée en 1995. L'idée, c'est qu'au sein de la Fédération, vous savez, la fameuse Fédération des planètes dont je vous parlais, la Fédération intergalactique, il y a des moments de tension avec deux visions de la gestion de celle-ci qui s'affrontent. Celle d'origine, le consensus, qui est défendu par ce qu'on appelle le maquis, donc des gens qui prennent le maquis, et une vision plus militarisée qui a émergé au fil des années. Et qui est donc, il faut être plus efficace. Vous voyez,
ouais, plus autoritaire.
Ouais, un peu plus autoritaire, puis surtout, il faut être plus efficace. Il faut pas trop discuter, voilà. Dans ce contexte d'affrontement, un vaisseau contenant des personnes des deux camps est propulsé aux confins de l'univers. En fait, ils sont en train de s'affronter dans le vaisseau et hop, pshou, il est aspiré. Mais vraiment. Voilà. Et oh, c'est de la science-fiction. Hein.
Comme moi dans le magasin.
Comme toi dans le magasin. Dans une zone inconnue totalement, qui n'est pas cartographiée.
Comme moi dans le magasin.
Parce qu'on appelle un sélectionneur qui cherche des femelles pour se reproduire. Alors.
Comme moi dans le magasin.
Donc voilà, oui, cela, ça peut sembler étrange, mais n'oubliez pas qu'en fait, en 1995, on est au moment des procès retentissants pour viol et meurtre aux USA, et notamment pour des mariages forcés. Donc on voit que, en fait, la série s'inspire encore une fois de ce qui se passe dans la société pour lancer un sujet de base. Et c'est aussi une des séries qui va révolutionner le genre science-fiction en général, et les choses pour Star Trek. Imaginez un peu, une capitaine aux commandes. Une seconde femme forte qui arrivera au cours de la première saison, qui est sauvée des Borg. Ouais, ouais, ils sont encore là. Ils sont un peu tout le temps là. Et un second qui est très sombre, très perturbé et qui cherche à retrouver la confiance dans les vivants. Et des extraterrestres qui, du coup, ne nous connaissent pas, parce que c'est dans un coin de l'univers où on n'est jamais allé. Donc, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs avec deux bras, deux jambes et un cerveau aussi limité? Et c'est très intéressant parce que ça donne justement, ça remet l'humain, cette série, elle a vraiment cette vocation-là à remettre l'humain pour ce qu'il est, c'est-à-dire un parmi des milliers d'espèces, et surtout pas forcément ni le plus intelligent, ni le plus rapide, ni le plus futé. Donc, et c'est très intéressant parce que pendant cette saison, bah, ils n'ont pas toujours gagné. Voilà, c'est un peu ça qui est intéressant dans les séries où des fois on gagne pas, ou des fois, bah, on est un petit peu très perdant. On se dit, bah, mince, là, en fait, on est vraiment couillon. C'est bien. Et en prime, cette série est une réflexion sur le voyage, ce qui est plutôt philosophiquement très intéressant. Et ce qu'il fait de nous. Parce que la capitaine Janeway, donc qui est la fameuse femme commandante du vaisseau, eh ben en fait, elle commence comme une guerrière un peu froide, un petit peu très basée sur les ordres, c'est les ordres, des trucs comme ça. Et puis, elle va terminer la série, donc 7 saisons plus tard, avec beaucoup de remises en question et en tendant vers plus de diplomatie et de bienveillance. Comme quoi, le voyage forme la jeunesse. Donc, derrière ça, il y a une série qui est apparue quelques années après, qui s'appelle Star Trek Enterprise. Alors, elle est apparue en 2001. C'est la plus sombre de tous les Star Trek. Parce qu'il y a des gens qui, depuis des années, notamment les Trekkies, c'est-à-dire les fans de Star Trek, disaient « Non, mais alors le coup de la Fédération, il est gentil Roddenberry. Mais comment ça s'est passé pour former une Fédération ? Parce que bon, faut pas déconner quand même. On n'est pas arrivé comme ça, on se met autour d'une table, salut, on est cool, on est plein d'espèces, de plein de mondes différents, et tout va bien. » Et en fait, cette série, bah, elle va raconter ça. Comment la Fédération s'est mise en place. Et c'est passionnant. Parce que, en fait, elle va parler de tout. Aussi bien des beaux aspects, des aspects positifs, mais que des très mauvais aspects. Donc les tensions, les guerres, et puis bien évidemment l'envie de prendre le pouvoir de certaines espèces, dont en particulier les humains, qui ont un vrai côté un petit peu négatif. D'ailleurs, tout est fait pour l'éviter, parce que justement, le fameux Enterprise, les gens sont dans le vaisseau qui va servir plus tard de modèle au réel Enterprise, c'est un peu le vaisseau de base, comme on dit, voilà. Et ben en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont une puissance énorme. Ils peuvent voyager dans l'univers, ils peuvent se déplacer, ils peuvent donc influer sur plein de monde. Et c'est quand même assez bizarre, quoi, pour un être humain de se dire, ben là, je peux arriver sur une planète où les gens ne savent pas voler, ne savent même pas qu'il y a d'autres êtres vivants, et on devient nous-mêmes les extra-planétaires de ces planètes-là, vous voyez. Donc il y a des vraies réflexions qui sont faites et qui sont très intéressantes. D'ailleurs, pour aller encore plus loin, dans cette série, il va y avoir quatre épisodes, pardon, qui sont en effet miroir, qui se passent dans un univers alternatif au nôtre, dans lequel, en fait, au lieu de vouloir faire une fédération, les humains ont décidé de créer un empire humain. Bon, alors, vous voyez un peu le nazisme? Bah, c'est ce qu'on a fait. Pour être très clair, on a dézingué des civilisations, on a pris le pouvoir sur une grosse partie de l'univers qui nous entoure, et on n'est pas vu comme des gens très très sympas dans l'univers, vous voyez. Tel point que dans cet univers alternatif, les Klingons, qui sont quand même la race la plus belliqueuse de l'univers, sont devenus quasiment des mecs sympas à côté des humains. Donc voilà, vous voyez, c'est super intéressant comme épisode, parce que ça nous renvoie à ce que nous sommes nous-mêmes. Je vous rappelle qu'on est dans la période, en 2001, d'une certaine guerre, et de certaines guerres qui se relancent, 2001, 2002, 2003, le 11 septembre, tout ça. Donc, vous voyez, il y a quand même tout un fond qui est là pour nous dire, mais on n'est pas obligé, en fait, de devenir des gros connards quand on nous attaque. Par exemple, vous voyez, on peut aussi réfléchir et se dire, faisons un peu le point et on peut faire autrement. Et la série a d'ailleurs a été très très critiquée par le camp républicain aux États-Unis, car elle a été vue comme une saleté de série pacifiste, alors qu'on aurait dû, à cette période-là, faire une série guerrière, nom de Dieu. Voilà. Mmh. Surtout, nom de Dieu. Et pour finir, il est né en 2017 une nouvelle série Star Trek qui s'appelle Discovery, qui est créée par Brian Fuller. Et non, c'est intéressant parce que c'est la dernière année et elle est loin de ne pas être ambitieuse. Parce qu'il y a plein de gens qui disaient qu'ils avaient peur qu'on fasse une série très peu ambitieuse. Au contraire, bah, à mes yeux, moi qui suis un trekkie, elle est vraiment ambitieuse et surtout elle va très très loin. Déjà parce qu'elle naît au moment de l'élection de Donald Trump. Alors ça vous paraît bizarre ce que je dis, mais en fait c'est pas simple de sortir une série qui prône le pacifisme, le multiculturalisme et l'envie de découvrir les autres quand vous avez comme président aux États-Unis Donald Trump. Ça complique un petit peu les choses. Et surtout, vous êtes pas sûr d'avoir votre public. Donc c'est déjà un petit peu prendre un risque que de sortir une série qui vraiment ouvertement prône cela. Et surtout, au-delà de ça, elle aborde une question cruciale, c'est la question de la dissuasion. C'est-à-dire, est-ce que quand on a une arme très puissante, est-ce qu'on doit s'en servir pour dire, bah maintenant j'ai l'arme la plus puissante, donc c'est moi le chef. Vous voyez, c'est vraiment la question qui se pose au sein de cette série, parce que en fait, elle s'implante dans l'univers Star Trek dans un conflit majeur. Elle se passe 10 ans avant Star Trek, au moment de la fin de la création de la Fédération, où les Klingons ont décidé de relancer une guerre contre la Fédération. Et en fait, ben, ça nous raconte cette guerre, comment elle a débuté, comment on aurait pu l'éviter, parce que ça, c'est très intéressant. On se rend compte qu'on aurait pu éviter cette guerre et que, eh ben, en fait, on est encore une fois passé à côté. Et que voilà. Donc, il y a une demi-saison qui a été déjà diffusée. Là, la suite arrivera le 8 janvier. Et pour moi, ben, j'ai vraiment hâte de voir la suite parce qu'elle s'inscrit pleinement dans l'univers et dans l'idée de Star Trek, ce qu'est Star Trek depuis le début. Donc voilà, je voulais juste vous parler de Star Trek parce que pour moi c'est loin d'être une simple enfilade de séries faciles. Les séries Star Trek, c'est des séries qui interrogent le monde réel en fait dans lequel nous vivons, qui nous renvoient à nos propres interrogations. Chacun peut y trouver de quoi satisfaire sa curiosité et son envie de penser, mais aussi de se divertir, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des séries qui ne sont pas chiantes. Voilà, où on passe de bons moments. Et au cœur des 6 séries déjà existantes, bah, je vous invite à aller piocher un petit peu, vous, de votre côté, voir un peu si ça pourrait vous plaire. Même la vieille série est agréable à regarder. Bon, elle a un peu vieilli, mais elle amène des vrais sujets de réflexion, des fois, sur des... Ouais, sur des... Bah, qu'est-ce que ça fait, par exemple, d'être le nouvel explorateur qui arrive sur une planète où vous perturbez toute la vie d'une planète parce qu'ils découvrent qu'il y a autre chose au-dessus de leur tête et puis qu'ils croient qu'ils sont tout seuls dans l'univers et puis qu'il y a Dieu qui les guide. Enfin, pardon, par Allah, parce que c'est le nom qu'a le dieu sur cette planète-là. Vous voyez, donc une Roddenberry qui met une interrogation sur ce que sont les humains quand ils croient qu'ils sont tout seuls dans l'univers et que Dieu les guide. Voilà. Donc je vous invite vraiment à découvrir l'univers de Star Trek.
Est-ce qu'on fait une pause musicale ou un jingle brève?
Il est...
Jingle brève.
Jingle brève.
Jingle brève. Jingle brève. Jingle brève.
Ouais. Mais on finira par Carmina Burana. Quand même.
Ah ouais? Oui. Oh, ok. Alors, bah, les brèves. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc ça va aller très vite. La première, c'est lundi 18, donc demain, c'est toujours la permanence juridique qui a lieu à la Lutine, au 91 rue Montesquieu, et c'est comme tous les lundis, de 18h30 à 20h. Et sans oublier la permanence aussi qui est faite...
Tous les jours à l'Union départementale du Rhône CGT de 10h à midi, 215 cours Lafayette pour les travailleurs sans papier.
Et voilà.
Dans le 6e.
Et l'autre rendez-vous, eh ben, c'est vendredi 22, donc vous avez le temps. C'est coopératives intégrales et autoproduction, un moyen concret de se libérer de l'économie. Ça aura lieu au bar Les Clameurs, pardon. C'est au 23 rue d'Aguesseau, au niveau de la Guillotière, si je ne me trompe pas. Et c'est à partir donc de 20h30, vendredi 22 décembre. Et voici.
Et on va aussi, nous, je pense que vous en serez tous d'accord, mais en tout cas en mon nom et j'espère ensuite de la causerie, apporter notre soutien à l'émission Berbère sans frontières qui a été attaquée hier soir dans les locaux de Radio Canu. Lancement de deux grenades lacrymogènes et puis des appels de menaces, évidemment. Vous pouvez savoir plus sur le site kabyle.com, c'est ça c'est...
Ouais, je crois que c'est kabyle.com. Ouais, enfin,
on mettra le lien sur le blog.
Et vous aurez certainement une réaction plus collective
de la radio
prochainement. Mais voilà.
Mais en tout cas, on leur apporte notre soutien.
C'est ça.
Voilà.
Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Eh bien si, ben, la semaine prochaine, vous retrouverez quand même en partie,
en toute petite partie,
la causerie. On sera là pour tenir compagnie à celles et ceux qui n'ont pas forcément être en famille ou autre pour fêter le solstice d'hiver.
Ah non,
c'est pas solstice
d'hiver. Si, c'est le solstice d'hiver. À un moment donné, on arrête avec toutes ces conneries de Père Noël. Désolé pour les enfants qui écoutent la radio après 22h, mais c'est une grosse connerie capitaliste inventée par Coca-Cola et plein d'autres connards avant eux. Donc, bon, le Père Noël, c'est vos parents qui se cassent le cul à aller chier du fric.
Et qui ont des cartes de fidélité pour acheter vos cadeaux.
Exactement. Non, ça, c'est les tatis.
Et donc, bah, on sera là la semaine prochaine. On ne sait pas trop ce qu'on vous présentera, mais l'idée, ce ne sera pas forcément de se prendre non plus trop la tête pendant que les autres boivent et bouffent. Et ben, il n'y a pas lieu qu'on se flagelle de l'horreur du monde.
Musique et texte, trucs comme ça.
On va faire un truc comme ça.
Voilà.
Et ben, alors, on vous souhaite une bonne nuit, une bonne semaine à venir, avec plein de courage et tout ça et tout ça. Et puis, on termine par.
Ben, c'est toi qui vas le dire.
T'es marrant, toi. C'est Etché.
Tu dis très bien.
Etché.
Eké.
Eké. Eké gratum. Etché.
Etché, Eké. Nous avons un débat, alors comment ça?
C'est basque, tu veux dire?
C'est du latin ou c'est de l'italien?
C'est du latin.
Eké.
Ah,
Eké.
Pardon.
Non, c'est pas grave, tu fais bien de corriger mon latin, enfin.
Mais oui, mais à un moment donné, il faut qu'on revienne aux bonnes vieilles valeurs, le grec et le latin pour tous.
Donc c'est Eke Gratum, et c'est donc de Carmina Burana, de Karl Hoff. C'est un court morceau, mais on vous invite à écouter toute l'œuvre, Carmina Burana, qui est assez délicieuse à l'oreille. Eh bien, bonne soirée, bonne nuit et à bientôt.
Des bisous.
Des bisous et bonne nuit.
Ciao.